Ce matin, dans les studios de Radio Royan Vercors, je reçois Métis Navarro, autrice plutôt de théâtre, mais là pour un projet de BD appelé Terre Rebelle, le voyage zapatiste en Europe. Une BD co-écrite, on va avoir le temps d'en parler. Et puis surtout, une BD sur les zapatistes, à l'occasion d'un cycle de rencontres des imaginaires engagés et enragés. Un petit groupe d'habitants et d'habitantes du Royan crée ce cycle de rencontres qui débutera le 20 avril avec le lancement de cet événement sur Terre Rebelle. Et puis d'autres événements à venir, on aura aussi l'occasion de voir ça. Et voilà, et donc bonjour Métis.
Bonjour.
Une petite introduction un peu complexe, mais parce que voilà, vous êtes à la fois un groupe d'habitants et d'habitantes à mettre en place ces rencontres d'imaginaires engagés et enragés. Peut-être tu peux juste en dire deux mots avant qu'on rentre dans la BD.
Oui, tout à fait. On est un petit groupe à se réunir un peu régulièrement pour imaginer des temps de rencontres, de réflexions, d'ateliers avec les habitants et les habitantes du Royan Vercors autour d'imaginaires. On fait un peu le constat qu'on est nombreux à faire, quoi, que ce qu'on nous montre comme horizon est plutôt désespérant, que les politiques ne prennent pas vraiment la mesure de ce qui se passe et qu'on a besoin malgré tout de pouvoir se nourrir d'autres visions du monde, de choses qui nous donnent des capacités et des inspirations, quoi. Et donc c'est autour de ça qu'on s'est dit qu'on essayait d'organiser des choses de manière régulière, de différentes manières. Et donc là, avec Terre Rebelle, ce sera le premier.
On pourrait dire qu'on est dans un contexte politique, écologique, social assez déprimant,
okay.
et voire catastrophique, qu'on est beaucoup à vivre de l'anxiété. On parle d'éco-anxiété beaucoup, mais aussi d'anxiété sociale, de précarité économique, sociale, qui affecte nos santé physique, nos santé mentale, et que effectivement on a besoin de nouveaux horizons, de chercher finalement autour de nous comment rester en vie et avoir envie de continuer d'avoir des projections dans l'avenir, quoi. Et effectivement les livres, les BD, les discussions sont des moyens de se faire du bien et de lutter contre cette morosité ambiante. On pourrait dire ça comme ça, peut-être.
Oui, tout à fait, oui.
Et du coup, les zapatistes sont un peuple qui nous donne de l'espoir parce que c'est un peuple révolutionnaire. Et donc, tu vas avoir le temps de nous en parler. Bon, peut-être quelques mots pour les auditeurs et auditrices de Radio Royan. Qu'est-ce que c'est que les zapatistes? Rapidement.
Rapidement, c'est pas évident, mais je vais essayer. Donc, les communautés zapatistes sont le résultat d'un soulèvement armé qui a eu lieu en 1994 dans le sud-est du Mexique et qui a été le résultat de 10 ans de préparation d'une sorte de guérilla dans la jungle. Guérilla composée en grande partie de populations indigènes, donc qui s'inscrivent elles-mêmes dans ce qu'elles appellent une résistance à l'impérialisme de 500 ans. Donc composé de ces indigènes en majorité, mais aussi de révolutionnaires plutôt de tendance marxiste-léniniste qui avaient rejoint ces forêts du sud du Mexique pour préparer une guérilla, quoi, un soulèvement armé. Et donc le soulèvement zapatiste, c'est le résultat en fait de ce mélange, et c'est peut-être pour ça que son futur a été assez différent d'autres guérillas qu'il y avait en Amérique centrale notamment, c'est que les révolutionnaires qui avaient rejoint cette région se sont laissés complètement imprégner par les usages et les modes de vie des indigènes et certaines traditions notamment liées au mode de vie communautaire. Donc le soulèvement a été préparé de manière donc complètement clandestine pendant 10 ans et les zapatistes ont pris un certain nombre de villes au Chiapas, donc cette région du sud-est du Mexique. Ils se sont soulevés en armes, hein, donc ils ont récupéré des terres. Ils ont après un certain nombre de jours de guerre, signé un cessez-le-feu avec le gouvernement, tenté de négocier des accords qui n'ont pas été, je résume, hein, mais comment dire. Accords qui ont été dans un premier temps acceptés par le gouvernement, puis non appliqués. Et donc, petit à petit, à partir de ça, ils ont constitué un système politique autonome. Donc, fondé sur l'autonomie, sur l'autogouvernement et sur la mise en place de systèmes politiques, mais surtout de justice, d'éducation, de médecine. Autonome, c'est-à-dire en dehors de tout ce que pouvait apporter l'État mexicain. Ils l'ont fait parce que ils considéraient qu'il fallait se défendre contre le capitalisme, quoi, rapidement, et que les indigènes subissaient une répression, un racisme, de 500 ans. Et donc, c'est ce constat-là qui les a amenés à ce soulèvement, mais aussi à cette capacité à construire vraiment une alternative au système capitaliste qui est à peu près unique au monde dans le temps, quoi, je dirais. C'est-à-dire que ça fait maintenant 30 ans qu'ils se sont soulevés et que donc ces communautés fonctionnent de manière autonome, dans une situation qui est quand même très difficile, mais en tout cas, ils sont toujours là.
Et du coup, c'est important de se dire voilà, que ça fait 30 ans, que c'est pas quelque chose qui a disparu, puisqu'ils sont toujours là, toujours actuels, et que ça forme une forme... Enfin, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui ? C'est que c'est quand même une référence dans les milieux de gauche anarchistes ou marxistes ou révolutionnaires en France. C'est-à-dire que c'est vraiment une référence sur... en fait, c'est possible de se soustraire à l'État et de fonctionner, comme tu disais, avec des moyens de santé, d'éducation, une vie communautaire en dehors des structures étatiques.
Oui, je pense que ça a été un modèle et une source d'inspiration pour toute la gauche, en fait. C'est-à-dire pas seulement anarchiste ou... maintenant, peut-être qu'on se dit ça, mais quand les apathistes se sont soulevés, ils ont eu quand même un écho international impressionnant. C'était aussi, je pense, une stratégie pensée de leur part, mais ils ont été assez avant-gardistes dans l'usage des nouvelles communications, dont Internet. Il y a eu ce sous-commandant Marcos, qui a été une figure médiatique très importante, qui a porté les communiqués, les textes des apatistes. Et donc, dans les premières années, ça a été vraiment même la gauche la plus institutionnelle qui a pu aller se rendre au Chiapas et voir de quoi il s'agissait, quoi. Donc, c'est assez étonnant de se dire que dans les années 90, ça a été un mouvement vraiment très important, dont on dit que ça a été un peu l'initiateur de l'altermondialisme, avec ce Yabasta qui a été prononcé et qui est devenu un slogan très connu. Tout en construisant leur autonomie, en se défendant contre la guerre de basse intensité, on dit, qui est menée par le gouvernement mexicain contre eux, en gérant tous les problèmes qui sont ceux du Mexique, et ils sont très nombreux et très graves, ils ont continué, ils ont perdu peut-être de l'attention médiatique au fur et à mesure des décennies, et donc ils continuent à défendre ce modèle et un certain type de relation qui permettent d'irriguer beaucoup de mouvements dans le monde, mais dans une situation quand même extrêmement fragile, quoi. Enfin, ils sont toujours là, mais ils sont toujours là, et c'est... cette durée dans le temps ne les protège pas. C'est toujours un peu une situation où il faut prêter attention à ce qui se passe au Chiapas, parce qu'il se passe des choses très graves. Et évidemment que le gouvernement mexicain ne voit pas d'un bon œil leur présence sur le territoire.
La longévité, ça ne veut pas dire qu'ils sont implantés, que c'est sécurisé, que ça y est, ils sont sortis d'affaires, quoi.
Oui, exactement.
Mais c'est vrai que les apatistes sont aussi dans leur mode de fonctionnement, avec une manière de penser les choses de manière assez aussi poétique, peut-être assez imaginaire, enfin, et que c'est là aussi qu'il y a une source d'inspiration, puisqu'on est dans des choses assez douloureuses, difficiles chez nous en Occident aussi, et qu'on regarde là un peu vers la lumière, parce qu'il y a aussi quelque chose de plus poétique, qui fait du bien, quoi, qui nous ouvre des horizons aussi là-dessus, quoi.
Je pense que ça a été très important, si je regarde dans mon propre cas, et puis je regarde le cas de bien d'autres personnes. Cette parole zapatiste est très singulière, puisqu'elle mêle une portée politique, géopolitique, d'analyse très, très présente, à un imaginaire maya, précolombien, à des contes, à de la mythologie, donc à différentes croyances. Et tout ça forme un ensemble, politique, poétique, avec beaucoup d'humour aussi, qui est extrêmement dissonant, quoi. C'est-à-dire qu'on c'était une forme de parole politique qu'on n'avait jamais entendue. Et donc je pense qu'elle a fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, mais que ce soit des personnes lambda qui ont besoin effectivement d'autres imaginaires et d'autres rapports à la politique, mais aussi à des penseurs, des philosophes, enfin toute une sphère en fait qui n'avait jamais entendu ce type de parole, et puis aussi qui pouvait s'émerveiller du fait que des petits indigènes non éduqués de la forêt La Candone se soulevaient, passaient donc la fameuse cagoule qu'on appelle le basse-montagne, et reprenaient puissance sur un territoire, quoi. Donc ça, ça a été un peu un coup de tonnerre, ouais, je pense, dans le paysage politique de l'époque, bon, qui n'était pas celui d'aujourd'hui, qui était peut-être un petit peu plus ouvert aussi. Et je sais que moi, dans mon parcours personnel, ça a été une très grande influence, une très grande source d'inspiration, et que ça a été un déclic, quoi, un déclencheur à la fois dans mon parcours littéraire et politique.
Parce que tu t'es rendu au Chiapas?
Je me suis rendue au Chiapas, donc le soulèvement c'était en 1994, moi j'y suis allée un an, 2007-2008, enfin pas seulement au Chiapas mais essentiellement au Chiapas, donc ce qui m'a permis effectivement de prendre une connaissance plus physique, plus matérielle, parce que là c'est complexe de comprendre l'organisation zapatiste, en allant dans les communautés, en faisant partie des brigades, ce qu'on appelle les brigades de surveillance internationales qui servent aussi à rapporter les pressions, les menaces dont les zapatistes sont victimes quotidiennement, et donc un peu à les protéger aussi. Et donc voilà, oui, j'ai passé un certain temps là-bas et j'ai gardé un lien assez fort avec cette région, avec des personnes et puis avec cette histoire évidemment.
Et donc, si on plonge doucement vers ce travail de BD, tout part du fait que, en octobre 2020, donc ce groupe zapatiste, les communautés zapatistes, envoie depuis le Mexique un message vers l'Europe, une lettre, d'ailleurs sous forme assez poétique, et il prévoit un voyage pour avoir des rencontres avec des collectifs ici en Europe.
Oui, tout à fait. C'est ce communiqué d'une montagne en haute mer qui est publié en octobre 2020. Alors donc juste pour replacer ça dans une histoire aussi, les zapatistes à travers différents porte-paroles, différents écrivains ou de manière collective s'adressent régulièrement à la communauté internationale, enfin la société civile mexicaine et internationale. Et donc ça n'a rien d'extraordinaire. Je veux dire, ça fait partie des relations qu'on noue avec eux, qui nous lient. Mais là, c'était un communiqué très particulier puisqu'effectivement, il annonçait la venue de délégations nombreuses en Europe. Il annonçait un voyage sur les 5 continents. Puis, précisément pour commencer, donc la venue d'un certain nombre de délégations zapatistes en Europe pour se trouver présent le 13 août à Madrid et fêter ensemble la prétendue conquête de Mexico par Cortés. Et il présentait ça comme une conquête inversée, comme si c'était un peu déjouer la colonisation à travers ce voyage et aussi ce qu'ils appelaient rendre l'abrazo, c'est-à-dire beaucoup de peuples, beaucoup de gens sont venus les voir sur leur territoire. Et là, à leur tour, ils viennent voir de quoi est faite la résistance en Europe et donc rencontrer leurs camarades en quelque sorte. Et ça a été un peu un séisme, c'est relatif, hein, mais je veux dire, pour les gens qui sont évidemment intéressés par les zapatistes, ça a été une annonce incroyable, quoi, de ce communiqué qui était déjà, enfin, textuellement d'une grande beauté, quoi. C'est un texte extrêmement puissant. Et en plus d'apprendre que les zapatistes allaient venir, d'autant que ce communiqué, donc, je rappelle, en octobre 2020, grande année du Covid.
En pleine pandémie.
En pleine pandémie, que tout voyage, toute relation, même proche, était complexe et, ouais, compliqué. Et que donc, ça paraissait totalement fou. Enfin, ça paraissait vraiment fou. Et donc, à partir de là, pour faire vite, hein, mais les premiers comités qui sont ceux de soutien aux zapatistes ont réagi. Des coordinations se sont constituées pour préparer la venue de ces délégations.
Partout en Europe.
Partout en Europe.
Et donc aussi proche de chez nous, en France. Et donc voilà. Et donc le travail de cette BD, Terre Rebelle, c'est de relater cette conquête inversée, ce voyage qui a eu lieu donc en 2021 avec, tu vas avoir le temps de nous en parler, mais donc pas tous les épisodes puisqu'ils sont restés un certain nombre de mois, mais les épisodes majeurs ou ceux auxquels vous avez eu accès pour finalement relater et donner accès aux personnes qui connaissent, mais à celles qui connaissent pas aussi, au grand public, ce que représente ce voyage des zapatistes en Europe.
Oui. Alors, il se trouve que quelques temps avant ce communiqué, j'avais rencontré une autrice de bande dessinée, Lisa Dugrin. Je l'avais rencontrée dans un autre contexte. Et on avait évoqué le Mexique et l'envie un peu de faire un livre sur les zapatistes. Bon. Et au moment du communiqué, on s'est reparlé. On s'est dit, c'est fou, ils arrivent. C'est peut-être le livre qui arrive aussi. Et assez vite, on est rentré dans les coordinations locales. Donc, Lisa étant à Marseille et moi en Ile-de-France à cette époque-là. Ça s'est passé très vite et puis l'organisation, ça a été quand même quelque chose. c'est un peu difficile à raconter tellement c'était complexe et plein de rebondissements. Mais en tout cas, très tôt, Lisa s'est attelée à essayer de produire des épisodes assez rapidement. Donc les premiers, c'est la mise en dessin de textes zapatistes qui annoncent la venue du premier escadron. Puisqu'avant l'ensemble des délégations, il y a eu la venue de l'escadron 421 par la mer, par bateau, un bateau qui s'appelait la Montagne. Et donc la présentation des membres de l'escadron était faite dans des textes. Et donc Lisa a découpé ses premiers textes pour annoncer donc la venue. Et aussi essayer de montrer ce qui se passait en Europe, enfin comment les collectifs se préparaient, préparaient des invitations, des événements. Les premiers épisodes ont été faits comme ça assez rapidement, les premiers mois avant donc quiconque arrive. Jérôme Bachet, qui est un historien et un spécialiste des zapatistes, qui vit la moitié de l'année au Chiapas, très proche des communautés, a également rejoint très vite donc et a trouvé très intéressant cette idée de BD. Donc les premiers épisodes ont été relayés dans des médias de tout type, quoi, aussi bien Le Monde, Libé, que plus tard Bastamag, enfin des médias aussi indépendants. Et donc on a essayé après de continuer, quoi, de se dire en fait il y a peu de relais quand même autour de ce voyage, et on va suivre les événements autour de l'escadron. Moi j'ai écrit l'épisode où il y a une rencontre à la ZAD, qui est une rencontre plutôt en mixité choisie autour des femmes zapatistes et femmes en lutte en Europe, personnes trans non binaires. Voilà.
Juste la ZAD, pour que tout le monde sache de quoi on parle de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, le grand projet d'aéroport où il y a eu une ZAD pendant des dizaines d'années et qui existe et qui existe toujours d'ailleurs.
Oui, voilà, donc le terme de ZAD maintenant n'a plus tout à fait le même sens, quoi, de zone à défendre, mais en tout cas ils avaient participé à l'organisation de ces rencontres. Et donc, bon, je ne vais pas raconter tous les épisodes, mais donc voilà, on s'est dit on fait un certain nombre d'épisodes et puis on essaye de les diffuser, et puis c'était un travail un peu intensif aussi pour Lisa qui est au dessin, et le dessin ça prend aussi du temps, mais et puis petit à petit on s'est dit on va faire une brochure donc auto-éditée qui s'appelle Le Voyage pour la vie et qui retrace les premiers épisodes notamment de l'escadron, donc de ces 7 personnes qui sont arrivées en bateau, et on rejoint ensuite en septembre octobre les vraies délégations, enfin les délégations importantes qui avaient eu beaucoup de mal à venir. Donc les 200 personnes zapatistes et du Conseil national indigène. Et à partir de là, bon, on a continué, on s'est dit, alors maintenant, ce sera pas seulement des allées-venues entre qu'est-ce que c'est que les zapatistes, comment se prépare le voyage, ça va être aussi les rencontres en elles-mêmes. Et donc, on a choisi, à partir de celles auxquelles on avait pu assister, donc Lisa, moi et d'autres personnes qui ont aussi participé à l'écriture, de relater un certain nombre d'épisodes, mais c'est évidemment extrêmement partiel. C'est-à-dire que c'est... une partie de ce voyage en Europe qui est saisie, voilà, à travers ces épisodes, mais qui permet, on l'espère en tout cas, de relater, de donner l'idée de ce que ça a représenté, que ces rencontres un peu folles, et aussi de donner à voir des lieux de résistance français.
Está a la sombra de su rumbo.